Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Vous le savez, nous sommes en direct jusqu'à 16h et cette semaine, je suis accompagné et ravi d'être accompagné par Justine, car notre camarade Ombline est en vacances. Bonjour Justine.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, alors pendant cette heure, nous écoutons vos histoires, car votre vécu, vos expériences de vie nous intéressent. En France, on parle d'une famille nombreuse quand il y a 3 enfants ou plus à la maison. Elles étaient plus d'un million en 2013. Entre les couches du petit dernier et les études à gérer de l'aîné, le quotidien de ces familles XXL semble être un véritable défi. Un défi de tous les niveaux, car il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, beaucoup d'attention pour chacun et des moyens, car avoir beaucoup d'enfants, eh bien, ça coûte cher. Et puis, il ne faut pas s'oublier soi-même, ni son couple, donc faire attention à rester un couple. Alors, quelle est la vie, le quotidien des familles nombreuses? Comment s'organise-t-elle? Famille nombreuse, est-ce un défi? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, car nous sommes là pour vous écouter.
Et pour ça, c'est très simple, appelez-nous au standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute ou alors laissez-nous un message sur Twitter ou sur la page Facebook de l'émission.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Athéna sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Athéna.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 31 ans et j'appelle de Nantes.
D'accord, cette belle ville de Nantes. Oui. Vous êtes la mère de 6 enfants, dont des triplés et des jumelles. C'était une envie depuis longtemps d'avoir une famille nombreuse pour vous?
Alors non, pas du tout. Moi, j'avais jamais envisagé mon avenir de cette manière. Et en fait, ça m'est clairement tombé dessus parce que j'ai découvert une grossesse triple très vite après la naissance de mon premier enfant. Donc, on s'est retrouvés de 3 à 6 du jour au lendemain. Donc, non, j'avais clairement pas prévu un jour d'avoir une famille nombreuse.
D'ailleurs, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte de triplé? Vous avez pensé à quoi tout de suite? Ça a dû être la panique un peu.
Ouais, c'est la panique. En fait, on se retrouve parachuté dans un monde complètement inconnu. Ouais. On a l'impression que tout ce qui est autour de nous n'existe plus. On se demande si ça va bien se passer. On se demande ce qu'il va falloir qu'on fasse. Comment on va réussir à surmonter ça, à gérer tous ces enfants d'un coup, à faire en sorte que le premier ne soit pas oublié. Il y a plein de questions qui se posent. Et puis, en fait, finalement, le médical reprend vraiment le dessus parce qu'on est suivi dans des services très spécifiques, en général des CHU. Ouais. Et puis, on se retrouve face à un risque très fort de prématurité, de séquelles pour ces bébés à naître. Enfin, on ne sait pas trop ce qui nous attend, en fait.
Mais alors, une fois sorti du médical, quand les choses recommencent à prendre leur place naturelle, comment est-ce que vous avez partagé votre temps entre vos triplés et votre premier enfant? Comment est-ce que vous avez équilibré les choses?
On a fait du mieux qu'on pouvait avec les moyens et les ressources qu'on avait. Donc on essayait d'accorder du temps pour l'aîné quand les 3 petits dormaient. Et puis, c'est comme ça qu'on essayait de trouver un équilibre. Après, ça reste clairement un gouffre un peu.
C'est une autre dimension, carrément.
Une autre dimension. C'est exactement ça.
Et pour le couple, notamment, parce que 3 bébés, déjà un, déjà on sait que c'est compliqué, mais 3 d'un seul coup, comment a résisté votre couple à l'arrivée de ces 3 petits?
On s'en est très bien sortis au départ. En fait, on a été tous les deux la première année de vie des bébés. Donc, on arrivait en fait à être assez forts ensemble pour surmonter ça avec le peu d'heures de sommeil qu'on avait. Et puis, finalement, non, ça résiste pas longtemps. En fait, c'est tellement violent, ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement de ressources qu'à un moment donné, il y a des choses qui éclatent et on se rend compte que peut-être qu'on est... pour nous, en tout cas, ça a été le cas, quoi. Ça n'a pas fonctionné, quoi.
Ouais, ça a fait exploser.
Donc après, je dis pas forcément que l'arrivée de nos multiples a été la cause de la rupture, mais ça n'aide pas à consolider
les choses.
tout à fait.
Mmh. Vous travaillez à l'époque lorsque vous avez eu votre replay?
Je passais mes examens à l'époque, parce que j'étais une jeune maman, donc j'étais en train de passer un BTS. J'ai passé mes oraux, je venais juste d'apprendre ma grossesse triple. En parallèle, j'étais en alternance, donc voilà, j'avais un travail, mais finalement, c'était un CDD qui s'est arrêté pendant ma grossesse. J'ai pris un congé parental à la suite de cette grossesse multiple pendant 6 ans.
Alors, quand vos quatre premiers avaient 7 et 8 ans, vous êtes à nouveau tombée enceinte et vous êtes tombée enceinte de jumelles. Comment l'avez-vous vécu à nouveau? Parce que, 3 la première fois, mais 2, c'est obligatoirement, on se dit qu'il va encore y avoir beaucoup de travail avec 2.
Oui, moi, je ne l'ai pas très bien pris. Je me sentais pas très à l'aise avec l'idée.
Oui.
J'avais projeté une grossesse très simple, un seul bébé. J'imaginais une maternité beaucoup plus simple. Et en fait, effectivement, je me suis de nouveau retrouvée face à une grossesse multiple.
Mmh.
Donc, j'ai beaucoup pleuré. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et finalement, mon mari qui n'avait pas d'enfant, lui, était hyper heureux de se projeter avec 2 bébés d'un coup. Et puis, finalement, en réfléchissant et en posant bien les choses, on s'est rendu compte que, on gérait déjà 4 enfants au quotidien. Donc, finalement, ça n'allait pas forcément être beaucoup plus compliqué d'accueillir des jumeaux. On savait faire. Il vivait avec moi depuis un moment. Donc, on avait l'expérience des multiples. Et deux enfants après 3 d'un coup, ça pouvait
C'est ce que j'allais vous dire. Vous aviez quand même une expérience énorme parce qu'à votre jeune âge, tout de même, avoir ces triplés, ça faisait de vous déjà une mère aguerrie. Donc, quand le père s'est réjoui de ces 2 petites filles qui allaient arriver, ça a dû quand même vous soulager aussi beaucoup. Vous restez en ligne avec nous, Athéna. Nous allons continuer à parler de votre quotidien avec vos 6 enfants, car nous allons voir qu'après vos jumelles, il y a quand même eu encore un autre petit qui est arrivé.
Europe 1. Quel est le quotidien d'une famille nombreuse? Quels en sont les défis? Appelez-nous comme Athéna, on attend votre avis au 3921 et on lit vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h et pour nous appeler, c'est le 3921 qu'il faut faire. On parle des défis des familles nombreuses cet après-midi. Alors si vous en faites partie ou si vous en avez une, venez nous en parler.
Et nous sommes toujours en ligne avec Athéna qui nous expliquait qu'après avoir eu un premier enfant, elle avait eu d'abord des triplés et puis ensuite, après l'expérience des triplés, avait mis au monde des jumelles. Et comme je le soulignais en fin de cette première partie, vous n'aviez pas terminé ce chemin. D'ailleurs, on en parlera. Est-ce qu'il est vraiment terminé ce chemin? Est-ce que vous referez des bébés à un moment ou un autre? Parce que vous êtes quand même encore très jeune. Après la naissance de vos jumelles, vous êtes de nouveau tombée enceinte. C'était un réel désir pour vous d'avoir une grossesse exclusive, comme vous le dites?
Ah non, mais pas du tout en fait, j'ai juste eu mes jumelles, je suis pas enceinte et j'ai pas eu du tout d'enfant après elle, et je suis pas du tout dans le désir d'enfant, donc je pense que il y a eu un petit quiproquo, mais j'ai bien que 6 enfants.
D'accord, parce que écoutez, oui, il y a eu une petite erreur de fait parce que j'ai pensé que vous aviez eu un enfant après. Est-ce que ça ne change pas le sens de toute façon de ma question? Est-ce que vous êtes dans le désir d'avoir une enfant ou un enfant, enfin un garçon ou une fille après, en tout cas d'avoir une grossesse exclusive?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait assez de chemin dans la maternité, d'avoir vécu assez de choses. Et voilà, je me sens aujourd'hui au complet avec mes 6 enfants.
Vous pensez que ça ne peut pas revenir, l'envie, à un moment?
Non, je crois pas. Je crois vraiment que je suis arrivée au bout de ce que j'étais capable de donner, en tout cas, aux enfants que j'allais accueillir. Et là, je me sens bien comme je suis. Et je pense pas que la question reviendra et se reposera.
D'accord. J'entends que c'est quelque chose d'entendu complètement. C'est entendu même avec monsieur aussi. Alors, on va passer justement au côté famille nombreuse. Ça a aussi un coût. Vous devez faire attention à tout aujourd'hui avec 6 enfants?
Oui, on doit faire attention à tout. Nous, on a fait des choix de vie. Donc, j'ai choisi de prendre un congé parental afin d'être au quotidien avec eux. Mais clairement, ça impacte, voilà, ça impacte sur le budget. Et il y a plein de choses qu'on peut pas se permettre de faire. Donc, effectivement, on fait attention. On trouve des astuces au quotidien pour réduire les dépenses.
Ouais.
Et puis voilà, on fait avec. Après. L'avantage que ça a, c'est que ce sont des enfants qui, dès qu'il y a une sortie un peu classique, basique, en fait, ils vont tout de suite s'émerveiller parce que c'est des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
que faites-vous, votre mari et vous ?
Alors, mon mari est architecte et moi, je suis commerciale.
D'accord. Donc, vous gagnez plutôt bien votre vie. Ça aide aussi, je suppose, à pouvoir organiser mieux la maison.
On ne peut pas dire qu'on soit dans une tranche où on gagne vraiment bien notre vie.
D'accord.
Voilà, non, vraiment, on tire un peu à...
Vous avez du mal à boucler les fins de mois, clairement.
Bah, disons qu'on a nos priorités, et en l'occurrence, pour nous, la priorité, c'est de bien manger.
D'accord.
Donc voilà, on achète des produits de qualité, et puis après, le reste, voilà, on n'achète pas vraiment d'habits, on récupère pas mal de choses. Et puis, voilà, on a un budget maison qui est conséquent parce que, évidemment, il faut de la place pour loger
bien
tout
sûr,
le monde. Donc,
bien sûr.
Voilà, c'est nos deux priorités.
Oui, oui, c'est-à-dire que quand on réfléchit, les 6 enfants plus vous, ça fait 8 personnes. Donc, obligatoirement, c'est une grande maison, en tout cas une maison conséquente. Et puis, avec toutes les charges qui accompagnent une grande maison. Votre vie de femme, vous, parce que j'imagine, voilà, je vous imagine avec 6 enfants, avec tout le travail que ça doit vous fournir. Est-ce que vous arrivez à être autre chose que maman, que mère ?
Bon, pour l'instant, non. Je pense que ça va revenir. Je reste hyper positive sur ce côté-là.
Oui.
Maintenant, moi, j'ai tendance à être une maman un peu louve qui a du mal à lâcher ses petits. Donc, clairement, voilà, ma priorité aujourd'hui, c'est mes enfants. Ma vie de femme, pour l'instant, elle est mise entre parenthèses, mais je sais que ça va revenir à un moment donné, que c'est une étape de ma vie qui fait que j'ai été parachutée dans un monde un peu particulier, que voilà, je dois faire face à ça, et puis plus tard, je reprendrai un peu une vie pour moi. Mais pour l'instant, voilà, mes enfants sont encore petits, mes deux petits ont 2 ans, donc voilà, faut savoir vivre avec ce qu'on a sur le moment, et puis... Je ne dis pas que c'est facile, j'avoue clairement qu'il y a des moments où j'en ai marre, où j'ai plus envie, où je me demande clairement pourquoi je vis des choses comme ça, mais généralement ça passe.
J'étais en train de me demander en fait quand cela pouvait vous manquer d'avoir une vie autre que mère. Est-ce que c'est par rapport aux autres, par rapport à vos amis, les femmes qui vous entourent dans votre vie, ça peut être à la sortie de l'école, comme... à travers les sollicitations que vous pouvez avoir dans la vie dans votre vie, à quel moment ça vous manque ce moment de passer des moments rien que pour vous ?
Bon, généralement, ça me manque dans des périodes effectivement de grandes sollicitations, donc pendant les vacances ou quand les enfants enchaînent des maladies et que finalement on a l'impression de pas du tout voir le jour. Après, je reste quand même assez disponible pour mes amis. Je pense que voilà, j'arrive quand même à trouver des temps autres peut-être que physiques, donc via je sais pas le téléphone, via ma boîte mail. Voilà, j'arrive à être présente autrement et à me libérer du temps personnellement, mais d'une autre manière, tout en restant à la maison à m'occuper de mes enfants en fait.
Alors très succinctement, je vais vous demander de répondre à ma dernière question. Qu'est-ce qui est le plus agréable dans le fait d'avoir une famille nombreuse, comme vous avez la chance de l'avoir, et qu'est-ce qui est le plus difficile ? D'abord, passons au plus agréable.
Le plus agréable, l'entraide. Et
l'entraide,
les valeurs que ça apporte aux enfants, en fait. Je trouve que c'est des enfants qui sont très autonomes, qui sont toujours entourés, qui sont très riches, en fait. C'est très riche humainement. Et on voit une entraide et une fratrie qui est hyper soudée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau à voir. Je suis capable de les regarder pendant... plusieurs minutes en me disant waouh, c'est quand même super chouette ce qu'ils vivent.
Ouais.
Donc ça, c'est très positif.
Ce qui fera à coup sûr des enfants qui garderont ces valeurs-là, à mon avis.
J'espère, ouais, j'espère pour eux, en tout cas. Je pense que c'est une force.
Et le plus difficile, alors ?
La logistique et la sollicitation.
Ouais.
Ouais. Je pense que la sollicitation, voilà, c'est quand ils sont là, il faut être à l'écoute, il faut être disponible. On est partout à la fois, on est capable de faire des leçons pendant qu'on prépare le repas, pendant qu'on met une machine en route et pendant qu'on coupe les ongles de pied du petit dernier. Il faut toujours être disponible, en fait. Mm-hmm. Donc ça, c'est... Voilà, moi, j'ai du mal à m'octroyer des temps quand ils sont là.
La
sollicitation, c'est quand même quelque chose de très, très dur à vivre au quotidien.
Je pense à toutes les auditrices mères qui vous écoutent aujourd'hui et qui n'en ont qu'un ou que deux, hein, et voire trois. J'espère que ça les soulage quelque part et puis que ça leur donne deux, trois raisons de se dire Athéna, elle en a six et elle arrive quand même à avoir à tirer de cette expérience de famille nombreuse quelque chose d'ultra positif, parce que c'est ce qui ressort de votre appel et de votre témoignage cet après-midi. Merci beaucoup Athéna en tout cas pour ce témoignage, et puis bien évidemment un bisou à toute la famille. Dans quelques instants, nous allons accueillir Morgane Lenain. Elle est administratrice à l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales.
Europe 1. Vous faites partie d'une famille nombreuse, vous en êtes à la tête, ou alors vous en connaissez une dans votre entourage, venez en discuter avec nous au 3921 ou sur la page Facebook de l'émission. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h.
Vous êtes trop jeune pour connaître
beaucoup
ça, vous, les négresses vertes,
famille nombreuse, famille heureuse, comme disait exactement les négresses vertes. Mais est-ce vraiment le cas? Venez en parler avec Olivier Delacroix cet après-midi au 3921, ou alors laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Eh bien écoutez, justement, nous allons en parler avec Morgane Lenain, administratrice à l'Union Nationale des Associations Familiales. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier, bonjour Justine.
Bonjour.
Merci de votre invitation.
Mais je vous en prie. Alors, dans quel but cette union a-t-elle été créée?
Alors, elle a été créée il y a 70 ans pour promouvoir, défendre et représenter les intérêts de toutes les familles qui vivent sur le territoire français,
Oui. Quelles
que soient leurs croyances ou leur appartenance politique. C'est représenter les familles auprès des pouvoirs publics.
D'accord. Et ça peut se traduire comment? Citez-moi des exemples un peu concrets pour que ceux qui nous écoutent comprennent.
Alors en fait, c'est des centaines de bénévoles d'associations familiales qui représentent toutes les familles auprès des pouvoirs publics, dans les hôpitaux, à la caisse d'allocation familiale, à la CPAM par exemple. Ça peut être aussi chaque fois que le législateur veut faire une loi qui concerne la famille, l'UNAF est consultée de manière systématique pour savoir si elle est dans le bon sens pour les familles, si elle atteint son but.
D'accord. Alors...
Donc sur tous les sujets qui touchent une famille, l'UNAF est consultée.
D'accord. Ce qui est plutôt rassurant de savoir que la famille aujourd'hui est représentée à travers votre union et que vous êtes là à chaque fois qu'un problème concernant la famille, en tout cas qu'une loi par exemple doit être votée. Le taux de natalité est en baisse en France. La moyenne est maintenant d'un enfant 1,87. Alors, je sais que c'est une notion un peu particulière, en tout cas elle est particulière pour moi. Peut-être parce que je ne suis pas très bon en maths et que c'est toujours quelque chose d'abstrait. Mais en tout cas, 1,87 enfants par femme, soit 12 000 bébés de moins qu'en 2017. Comment l'expliquez-vous, cette baisse?
On l'explique, pour nous, c'est vraiment un signe très inquiétant de perte de confiance des familles, puisqu'on remarque qu'elle concerne tous les rangs de naissance, pas seulement les enfants nombreux, mais tous les rangs de naissance et toutes les classes sociales.
Ah oui, toutes les classes sociales.
Sont touchées par cette baisse de fécondité. Effectivement, nous, on trouve ça inquiétant parce que toutes les études montrent que le désir d'enfant, lui, ne baisse pas. Donc ça veut dire que les familles ne peuvent pas réaliser leurs aspirations. Le désir d'enfant en France, en moyenne, 2,3 enfants par femme.
Oui.
Donc on voit bien que ce désir est réalisé de moins en moins. Alors nous, on met en cause directement les politiques publiques qui sont beaucoup moins favorables aux familles avec enfants. Ça fait des années que les politiques publiques se sont dégradées en envoyant des signaux très négatifs aux familles et aux futures familles. Les familles ont subi à la fois des réductions de leurs prestations monétaires, donc tout ce qui était prestations d'accueil du jeune enfant, indemnisation du congé parental qui a baissé, qui s'est compliqué en plus, la baisse des allocations familiales. Par ailleurs, les hausses fiscales ont plus fortement touché les familles et les familles nombreuses. On a vu aussi une augmentation de la TVA que paient particulièrement les familles nombreuses, puisque étant nombreuses, leur volume d'achat est très important. Donc elles paient beaucoup de TVA, c'est un impôt qui pèse énormément sur les familles nombreuses. On a eu une dégradation aussi du quotient familial sur l'impôt sur le revenu. Donc tout ça conjugué avec en plus des augmentations de tarifs pour l'accès aux services locaux, par exemple, tels que la cantine, transport scolaire, etc.
Pardonnez-moi de vous interrompre. On peut bien évidemment comprendre que tout ce que vous venez de nous citer touche des familles, soit des familles vraiment aux revenus très faibles ou voire des revenus moyens. Mais vous nous avez précisé qu'elle touchait aussi des familles, toutes les familles de toute classe sociale. Est-ce que dans tout cela, il n'y a pas un certain pessimisme aussi qui se dégage aujourd'hui? Avoir un enfant, c'est vraiment prendre la responsabilité d'avoir un enfant dans ce monde-là. Est-ce que ce paramètre-là de ce monde qui se dégrade de plus en plus est apparu dans le cadre de nombreuses enquêtes que vous avez faites?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit un pessimisme. Je vous dis, le désir d'enfant, il est toujours là. Et le désir de famille nombreuse est toujours là, puisqu'il y a un tiers des personnes qui désirent avoir une famille de 3 enfants ou plus. Donc, je ne pense pas que ce soit le pessimisme qui touche les gens. En revanche, il est faux de croire que les personnes qui ont des revenus plus importants ne dépendent pas des aides. Vous voyez, parce que le niveau de vie des familles nombreuses se dégrade très très vite au fur et à mesure du nombre d'enfants, que le nombre d'enfants augmente. Donc très vite, si vous voulez, s'il n'y a pas une politique fiscale un peu plus avantageuse, le niveau de vie des personnes se dégradant très vite, l'arbitrage entre réaliser son désir de grande famille ou jouer la sécurité fait que les personnes renoncent, ont plutôt tendance à renoncer à leurs désirs.
D'ailleurs, je précise que dans l'une de vos enquêtes, le schéma familial idéal pour les Français serait composé de 2 adultes, bien évidemment, et de 3 enfants. Donc, on voit qu'il y a une envie quand même d'avoir des enfants aujourd'hui. La direction de la recherche des études et de l'évaluation et des statistiques a révélé en 2015 qu'un enfant de moins de 16 ans coûte en moyenne 6 000 euros par an. Comment une famille nombreuse peut-elle être aidée aujourd'hui par l'État?
Alors, c'est à travers toutes les prestations que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a beaucoup de prestations qui sont en direction des familles nombreuses. C'est pourquoi, justement, le budget de ces familles, dès qu'on
les touche,
est déstabilisé, dès qu'on touche en fait à ces aides, très vite, le budget est déstabilisé et on met en difficulté les familles.
Alors, Morgane Lenain, vous restez avec nous en ligne. On va continuer à parler avec vous dans la suite de cette émission. D'abord, des conseils que vous pourriez donner à ces familles nombreuses et puis savoir comment aussi, dans ces conseils, vous pourriez en avoir quelques-uns pour que ces parents ne puissent pas s'oublier, puisque au-delà de votre mission, vous avez quand même une grande expérience de ces parents, puisque vous faites des enquêtes, des études et que vous les entendez beaucoup, ces parents. Dans quelques instants, on accueillera Perrine. Elle est l'avant-dernière d'une fratrie de 7 enfants.
Europe 1. On partage vos expériences de vie jusqu'à 16h pour ça. Un seul numéro, le 3921. Famille nombreuse, est-ce un défi? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui sur Europe 1. Alors, comment s'organise le quotidien quand on est une famille nombreuse? Comment accorder du temps à chaque enfant? Venez nous donner votre avis au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix jusqu'à 16h.
Et nous allons continuer donc à parler de familles nombreuses. Justine, nous allons parler de lait. Et donc, nous allons parler d'agriculture. Vous avez vu comment je fais le lien? Puisque mercredi, nous serons en direct du Salon de l'agriculture de 15h à 16h. Donc, je serai vraiment ravi de croiser beaucoup d'amis que j'ai là-bas et qui font chaque année ce salon. Donc, nous serons là mercredi. Nous sommes maintenant avec Perrine. Bonjour Perrine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Perrine?
J'ai 18 ans et là, j'appelle d'Angers.
d'Angers, d'accord. Alors, vous, Perrine, vous êtes l'avant-dernière d'une famille de 7 enfants. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance avec vos frères et sœurs?
C'est plus positif d'enfance, on était plus rapprochés.
Ouais.
On était assez rapprochés en âge. Donc, c'est vrai que pour s'amuser par rapport à un enfant unique, même nos frères et sœurs, on regardait la télé ensemble, on se promenait ensemble, mais on a toujours été quand même soudés quand on était petits.
On est jamais seul, en fait. Ça, c'est vraiment
un
avantage énorme. Et justement, on dit souvent que les enfants issus d'une famille nombreuse, d'ailleurs, on l'évoquait dans la première partie de cette émission avec Athéna, développent des qualités différentes. En tout cas, ça va plus vite pour eux. Ils deviennent plus mûrs. L'entraide, c'est quelque chose qui se développe. Est-ce que vous sentez que vous avez emmené tout ça avec vous?
Oui, je me sens totalement altruiste.
Ouais.
Et je fais plus passer les autres avant moi, on va dire.
Et alors, est-ce que c'est difficile, justement, d'exister individuellement, en quelque sorte, aujourd'hui, sans tous les frères et sœurs à la maison?
On va dire que j'ai toujours eu un fort caractère au sein de la famille. Donc, moi, ce n'est pas mon problème. J'ai toujours eu un fort caractère, donc je me démarquais pas mal. Mais c'est que pour, par exemple, une autre de mes sœurs, c'est plus compliqué parce qu'elle a une jumelle et... Il y a une jumelle dominante et une jumelle qui l'est moins.
D'accord. Donc
c'est là où c'est plus compliqué.
Et elles se manquent. Elles sont comme vous, elles sont parties de la maison aujourd'hui ou elles sont toujours à la maison?
Non, elles sont toujours à la maison.
D'accord. Donc elles sont toujours ensemble quand même.
En fait, oui,
vous aujourd'hui, ma question c'était que vous êtes partie, donc vous avez quitté cette famille nombreuse, hein, puisque vous êtes, vous faites vos études, et donc c'est difficile de quitter aussi la fratrie et de recréer des liens avec d'autres ou alors finalement c'est beaucoup plus facile quand on a eu votre expérience.
En soi, au début, c'est compliqué parce que forcément, on arrive, c'est le silence, on est tout seul. Et là, on se rend compte vraiment la solitude. Mais après, j'ai toujours été un peu sociable. Et du coup, on a quand même un entourage, nos amis. Donc, c'est dur au début, mais on s'y fait très vite.
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être, à votre avis, au sein d'une famille nombreuse? Dites-moi, quelles sont, à votre avis, les qualités premières que vos amis, aujourd'hui, retrouvent dans la Perrine qui s'est installée à faire ses études à Angers?
Déjà, l'autonomie, parce que ça vient plus rapidement pour moi que pour certains.
Mmh.
Après, peut-être la maturité. C'est vrai que j'ai toujours un peu été en avance par rapport à certains.
Mmh.
Et l'altruisme, c'est une grande qualité. Et peut-être aussi le fait d'économiser, de se rendre compte du coût de la vie.
Oui, c'est ça.
Chose que certains ne se rendent pas compte. Et là, quand on est famille nombreuse, c'est vrai que c'est quelque chose d'important.
Oui, oui. On a la valeur, on connaît la valeur des choses, de ce que ça coûte exactement. On va parler avec Satya, qui nous appelle au 3921 et qui est... issue d'une famille nombreuse, elle aussi, puisque 11 enfants composaient cette fratrie. Bonjour Satya.
Bonjour.
Bonjour, vous nous appelez d'où et quel âge avez-vous, Satya?
Alors, j'ai 34 ans et j'appelle de Colombes.
D'accord. Alors, vous situiez où exactement dans la fratrie? Vous étiez au milieu, à la fin ou au tout début?
Alors, à la fin, je suis la dernière. Pardon.
Alors, vous étiez la dernière. Ah, donc, quel souvenir vous gardez déjà de cette famille nombreuse? Et puis, alors, surtout, si vous êtes la dernière, vous avez été la dernière à quitter la maison. Donc, quand vous m'avez dit ça, tout de suite, j'ai pensé, elle a dû voir tout le monde partir et rester. Et ça a quand même dû être particulier pour vous.
Tout à fait. Tout le monde est parti avant moi.
Ouais.
Ça a été dur, mais pas si dur que ça parce qu'en fin de compte, on n'a pas les mêmes affinités avec tous les frères et sœurs.
Mmh. C'est-à-dire?
Allô?
Qu'entendez-vous par là?
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Je vous demandais ce que vous entendiez par là.
Alors moi, je, de mon expérience en tout cas, je pense qu'on ne peut pas s'entendre de la même manière avec tous les frères et sœurs issus de la même famille. Et ça devient encore plus compliqué quand c'est une famille nombreuse. Et en fait, moi, c'est ce que je retiens le plus, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de belles choses, mais malheureusement, on ne peut pas avoir les mêmes relations avec chacun.
Alors j'entends complètement, mais lorsque vous entendez Perrine, qui a aujourd'hui 18 ans, qui, elle, parle de tout ce qu'on emmène comme valeur, et puis on devient un peu plus mûr, est-ce que vous partagez aussi ça, ce sens des valeurs?
Oui, tout à fait ça, je suis entièrement d'accord. On apprend plein de choses de la part de chaque frère et sœur, justement, surtout quand on est la dernière.
Oui.
Et on apprend ce que nous apprennent les parents, mais en plus de chaque frère et sœur, quoi. On peut vivre l'expérience de chacun et en tirer des leçons aussi. Et ça, c'est génial.
Mmh. Alors, je vous reprends tout de suite, Satya, mais j'ai une petite question à poser à Perrine. Perrine, vous m'avez dit qu'il y avait très peu de différences entre les uns et les autres. Est-ce que ça a contribué? Vous vous entendez bien les uns et les autres? Ou comme Satya, il y a quelques distorsions entre vous?
Aujourd'hui, on va dire que oui, parce qu'on a tous grandi et mûri et on se rend compte. Mais c'est vrai que quand on était enfant, il y a souvent eu des disputes.
Oui.
C'est évident, mais en grandissant, c'est avec la maturité, non, on s'entend tous très bien.
Ouais.
Et...
Mmh. Non. Alors justement, je me retourne vers vous, Satya. Est-ce qu'il y avait des différences d'âge dans votre fratrie de 11 enfants, je le rappelle? Bon, chez Perrine, il y en avait 7 ou 8, hein, je crois. Voilà, 7. Est-ce que vous pensez que les différences d'âge ont contribué à ce que vous éloignez?
Oui, bah justement, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais justement, puisque ma plus grande sœur a 55 ans, et justement, autant d'un côté ça va développer un autre type de relation, une relation plus de respect, d'admiration même, j'ai envie de dire, mais justement ça va pas non plus favoriser aussi les affinités avec les personnes qui sont beaucoup plus âgées.
D'accord.
Voilà.
Mmh. Donc on peut y voir quelque chose d'assez particulier, c'est que Perrine, 7 enfants qui se suivent et qui finalement ne sont pas loin générationnellement. Et puis vous, Satya, 34 ans, la petite dernière avec une sœur de 55 ans. Et on peut entendre pourquoi il peut y avoir des différences de vue, en tout cas de ressenti. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de poser la question à Morgane Lenain juste après ces quelques instants. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Satya. Merci beaucoup aussi à vous, Perrine. Et puis, je vous embrasse toutes les deux. Et mille merci d'avoir partagé votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous serons avec... Claudine, elle est la mère de 6 enfants qu'elle a élevés toute seule. Et puis, Morgane Lenain, justement, nous répondra sur justement cette différence d'âge dans la fratrie. Est-ce qu'elle compte ou elle ne compte pas ?
Europe 1, de 15h à 16h, vous partagez vos expériences de vie avec Olivier Delacroix au 3921 et sur Twitter et Facebook. Venez-vous d'une famille nombreuse ? Comment l'avez-vous vécu ? On vous écoute sur Europe 1.
Tu as combien d'enfants, en fait ?
Et toi, tu as combien d'enfants?
Toi d'abord.
Bon, écoute, tu finiras par le savoir. J'en ai beaucoup trop pour que ça reste un secret. J'ai 8 enfants. 8.
Moi, j'en ai 10.
10 enfants, c'est ce qu'on appelle une très grande famille. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de conversation, comme dans le film Une famille, deux en un? Venez nous raconter. Olivier Delacroix vous écoute jusqu'à 16h au 39-21 sur les familles nombreuses.
Vous avez des frères et sœurs, Justine?
Un frère et une sœur.
Bon,
on est 3.
Tout se passe bien.
Très très bien, une très bonne relation.
Le schéma idéal, rêvé par les Français. 3 enfants et 2 adultes.
Exactement.
Donc vous avez vécu le bonheur sans le savoir. nous sommes toujours avec Morgane Lenain de l'UNAF. Madame Lenain, justement, on entendait le témoignage de Satya et de Perrine. Et justement, on entendait combien ces enfants qui viennent de fratries nombreuses développent des qualités particulières. Mais chacune, on a senti que chez Perrine, peu d'écart entre les uns et les autres et une entente parfaite, et plutôt une entente parfaite après. Dans la vie d'adulte. Alors que dans le témoignage de Satya, on a senti tout de suite la différence entre elle déjà et son aîné qui avait 55 ans alors qu'elle en avait 34. Est-ce que cette différence d'âge, elle peut être une problématique assez sérieuse pour ses frères et sœurs ensuite?
Je ne crois pas que ça puisse être une problématique assez sérieuse. Après, c'est juste une question évidente, c'est que on va forcément plus avoir d'affinité avec les enfants qui ont partagé le même lieu de vie en même temps.
Oui.
Forcément, un enfant en bas âge qui a vu ses frères et sœurs aînés que quelques années, quand l'aîné part, ils ont 4 ans, ils ne peuvent pas avoir de souvenirs communs. C'est des liens du sang, mais on pourrait peut-être avoir des relations qui ressemblent plus à ceux d'un oncle ou d'une tante, peut-être. Mais c'est évident qu'on ne peut pas avoir les mêmes sourires complices, les mêmes délires, comme peuvent dire les enfants.
Oui, c'est ça, on est plus...
C'est pas des choses, des complicités qu'ils ont pu développer en partageant la même vie. Après, je pense pas que... ce soit réellement une problématique.
Bon, en tout cas, on sent qu'avec Perrine, vous avez raison, c'est générationnellement, tout le monde est à peu près dans la même bulle, donc il y a plus d'entente qu'avec Satya et ses autres frères et sœurs. On accueille maintenant Claudine. Bonjour Claudine, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour,
à vos intervenants et à tout le monde.
Bonjour.
Voilà,
quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Claudine ?
Alors, moi, j'habite Lille et j'ai 63 ans. Voilà.
D'accord. Alors, vous êtes la maman d'une famille de 6 enfants. Vous les avez élevés seuls parce que, vous dites que les pères ne vous ont pas du tout aidé.
Non, du tout. Ni aidé, à la maison quand ils étaient là, ou alors aidé après financièrement, jamais. Mm-hmm. J'ai assumé mes 6 enfants seuls.
Oui,
seule, j'ai travaillé tout le temps, je n'ai jamais arrêté de travailler.
Mais ce qui est magnifique dans votre histoire, Claudine, c'est que vous nous appelez aussi aujourd'hui pour nous dire que ça a été une merveilleuse aventure, vous avez aimé avoir cette famille nombreuse, alors que les pères ne vous ont pas aidé. Dites-moi comment et pourquoi vous avez aimé ça.
Je pense que c'est le fait aussi que moi je sois donc... la deuxième d'une fratrie de 5, alors je pense que c'est déjà une habitude, mais j'aime ça, j'ai aimé, j'aime toujours avoir mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières maintenant, parce que je suis arrière-grand-mère depuis peu. Donc en fait, et je continue à travailler, je suis en retraite, mais je continue à travailler parce que je ne me vois pas faire autrement. Et mes enfants, ils ont toujours été bien élevés. D'ailleurs, dans où j'habite, ça fait 33 ans que je suis dans ma maison. Et les voisins disent, mais on n'a jamais vu une famille comme ça, où les enfants sont aussi polis, aussi bien élevés, éduqués. Et aujourd'hui, j'en suis très fière parce que quand ils doivent se présenter à un travail, à un entretien ou quelque chose d'autre, ils sont toujours très... On a toujours des bons rapports pour eux en disant ça c'est une personne en fait qui était bien élevée. On leur dit d'ailleurs vous avez eu une belle éducation, vous savez parler, vous savez vous communiquer, vous savez être aimable, vous savez, voilà, et ça aide énormément, ça les aide énormément.
Alors,
en tout cas, moi je peux dire une chose, c'est que je suis très fière de ma famille.
Alors je le sais que vous êtes très fière, et justement vous êtes fière parce que on a fait la semaine dernière une émission autour de l'obéissance combien cette notion était importante, en tout cas l'éducation, on parlait surtout d'éducation la semaine dernière, et je sais que vous prenez une organisation béton avec vos 6 enfants. Est-ce que justement la réussite aujourd'hui, tout ce qu'on dit de vos enfants aujourd'hui et de ce qu'ils sont devenus, elle tient à cette organisation béton?
Oui, c'est une organisation béton sans crier, sans frapper, sans rien.
Ouais.
C'est ça qui serait... En fait, mes enfants me disaient toujours, t'es une maman cool, mais t'es aussi un papa. Donc on n'a pas besoin de papa finalement. Ils n'ont jamais cherché à être plus proche de leur père, puisque de toute façon... Ils disent qu'eux-mêmes, encore aujourd'hui, qu'ils n'en ont pas besoin. Mmh. Ils voient, c'est bien, ils ne voient pas, c'est pareil. Moi, je n'ai jamais interdit aucun des pères de voir leurs enfants, même s'ils n'ont jamais rien payé. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours prôné pour mes enfants. Moi, c'est mes enfants qui passent avant tout.
Bon.
Et moi, je voulais que mes enfants ils soient heureux. Heureux, ça veut dire qu'on les a fait avec quelqu'un, on est en droit de les partager avec la personne qui le veut. Maintenant, si les pères ne le désirent pas, ça, je ne peux rien y faire.
Mmh. Et vous, Claudine,
Oui.
Est-ce que vous avez réussi dans tout ça à vous occuper de vous un peu? Parce qu'on sent que vous avez une énergie d'enfer, vous avez réussi de...
Oui, j'ai réussi, mais j'ai quand même eu des phases de dépression. Hein, une grosse phase de dépression d'ailleurs en 84, où là j'étais hospitalisée 3 fois sur 9 mois.
Ouais.
Mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. toujours grâce à mes enfants, parce que mon petit garçon, quand j'étais à l'hôpital, il venait juste d'aller chez une nourrice des allocations familiales et il a dit « maman à la nourrice » quand je suis allée le rechercher. Et c'est en 10 jours de temps, un enfant de 10 mois et demi qui dit « maman à la nourrice », j'ai dit « je peux plus ». Et ouais. Je me suis, c'est ce qui m'a remonté. Et c'est grâce à mes enfants, d'ailleurs, que je suis aujourd'hui encore plus ce que je suis, parce que j'ai réussi à remonter cette dépression qui était vraiment... Ça faisait quand même 2 ans que ça durait. Et c'est grâce à eux, en fait, et je les en remercie. Hein,
c'est grâce à vous qui sont aussi les enfants qui ont été capables à un moment... de rendre, parce que nombreuses sont les femmes avec qui je parle, les mères avec qui je parle, les mères célibataires souvent, qui ont 4-5 enfants et qui, à un moment, évoquent ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'à un moment, les enfants prennent part et ça fait partie de la maturité et des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Ces enfants de familles nombreuses, à un moment, ils ont plus de maturité, plus la notion de valeur des choses et ils savent voir quand maman fatigue un peu. Donc, merci beaucoup Claudine pour votre appel et votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour à tous les Lillois et les Lilloises qui nous écoutent, puisque voilà, j'adore aussi cette ville. Je dirais que j'adore toute la France, en fait. Donc, bonjour à Lille. Et nous accueillerons dans quelques instants Marielle. Elle a une histoire peu commune. Elle est à la tête d'une famille de combien,
Justine ? 14, j'ai vu.
14 enfants, vous
c'est
avez
énorme.
Vu. C'est tout de suite sur Europe 1.
François de la Celle-Saint-Cloud nous a laissé un message au 3921. Il nous dit « J'ai eu 7 enfants, mon épouse ne travaillait pas. Alors quand on me demandait comment on faisait, je disais que ma femme était la responsable DRH d'une PME de 9 personnes, car elle gérait tout à la maison. »
Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Olivier Delacroix et vous partagez vos expériences de vie au 3921. Aujourd'hui, on s'intéresse aux familles nombreuses. Alors n'hésitez pas à venir nous parler de votre quotidien en direct. Et le 3921, c'est le numéro qu'il faut faire pour échanger avec Olivier Delacroix autour des familles nombreuses, comment on s'adapte, l'organisation est-elle vraiment la clé de la réussite? Venez partager vos expériences avec nous.
Bon, à mon avis, moi je n'en ai qu'une et déjà c'est du boulot, donc j'ai vraiment une admiration d'abord pour les parents et puis bien évidemment aussi pour ces enfants qui développent, on l'a vu, des valeurs particulières dans leur éducation et qui sont plus mûrs tous les autres, ce qui en fait des adultes finalement après qui savent ce que veulent dire les mots amitié, les mots entraide, les mots partage. On va voir ça justement avec Marielle. Bonjour Marielle, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors vous, Marielle, vous avez un quotidien peu commun. Vous êtes à la tête d'une famille de 14 enfants.
Absolument.
Vous avez eu les premiers à 24 ans. Hein. C'était
ça,
un véritable
des jumeaux.
C'était un véritable projet de vie d'avoir une famille aussi nombreuse.
Non, pas du tout. En fait, je suis issue de 3. Mon mari est issu de 4 et ouais. On pensait avoir 3-4 enfants, mais pas forcément plus. Et on a côtoyé des familles nombreuses qui nous ont donné envie. Et puis à partir de 7, on a quand même eu une pause en fait, on a réfléchi à tout ça et en fait, vous voyez, l'enfant de plus me faisait signe, il me murmurait à l'oreille, il me dit mais est-ce que je peux venir habiter chez vous? Et du coup, on s'est agrandi comme ça au fur et à mesure, mais on a réfléchi chaque enfant en fait quand même.
Oui, c'est ça, je me demande, c'est ça, vous avez réfléchi chaque enfant, ce qui est aussi ce qui donne à votre aventure de vie un côté... que je trouve formidable, c'est que chaque enfant a été désiré, attendu, et il y en a 14 quand même. Ça fait beaucoup de réflexion tout ça.
C'est ça. Après chaque enfant, en fait, ce qui était très important pour moi, c'est qu'on retrouve un certain équilibre et qu'on se dit, l'enfant de plus, est-ce qu'il va être possible, en fait? Est-ce que physiquement, est-ce que psychologiquement, ouais. Est-ce qu'il y a à peu près une mayonnaise familiale qui s'est remise en place? Est-ce que ça va être possible? Et puis après... je dois dire qu'à partir de 7, quand même, il y a un brin d'espérance quoi, qui nous fait choisir d'avoir un enfant de plus. Pour moi, ça a été comme ça.
Est-ce que vous entendez par là qu'il y a un déclic qui s'est fait à partir de 7 et que finalement, à partir de ensuite, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ça ne gère pas vraiment le quotidien? Parce que comment il se gère ce quotidien avec autant d'enfants?
C'est comme vous disiez, c'est vraiment une organisation vraiment serrée. On n'est pas dans l'improvisation.
Ouais.
Donc on gère tout ça de manière très serrée, mais c'est tellement serré et tellement organisé que finalement l'imprévu a sa place aussi.
Alors il y aurait tellement de choses à dire hein, sur ce quotidien, on a bien été obligé de vous poser des questions sur des choses qui nous paraissent élémentaires. Par exemple l'heure des repas chez vous est généralement très importante. Comment ça se passe à la maison?
Alors les repas, je les prépare à l'avance et donc quand les enfants viennent à table ou quand il y a quelqu'un qui met la table mais on n'a pas de tour de rôle, le repas est déjà prêt donc je peux vraiment faire attention aux enfants qui sont là, à ceux qui sont là. Et en fait, ça se passe plutôt bien. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours hyper calme et que tout le monde a quand même un peu quelque chose à dire. Mm-hmm. Mais c'est quand même des moments qui sont des moments privilégiés dans la famille.
Vous dites que vous faites en sorte que les grands ne s'occupent pas des petits. Pourquoi est-ce important pour vous, cela ?
Alors, pas qu'ils ne s'occupent pas des petits. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas avoir une pression. Leur vie à eux ne doit pas être... en fait, ils sont pas les parents, en fait. Et ça, pour moi, c'est très important.
C'est Pierre
et moi qui sommes les parents, et c'est nous qui prenons en charge. Ça veut pas dire que quand ils sont là et qu'il y a un petit qui tombe ou qu'il y a quelque chose à faire, ils doivent pas l'aider. C'est juste que je vais pas leur demander, là, tu sors pas parce que tu me gardes les petits. Ça, je trouverais ça.
Chacun son rôle.
C'est injuste pour eux, en fait. Ils sont pas là pour... Je pense que chacun a son rôle et ils le sentent, mais pas au détriment de leur jeunesse et au détriment de leur vie à eux.
Alors, je sais, Marielle, que vous êtes une grosse dormeuse. Est-ce que c'est Pierre qui prend le relais et qui arrive justement à ce que votre équilibre soit... Alors je dis, attention, je dis que vous êtes une grosse dormeuse, je ne dis pas que vous dormez beaucoup. Mais comment vous arrivez à dormir ?
Oui. Alors en fait, c'est vrai que j'ai des grosses nuits, mais étant extrêmement active pendant la journée, j'ai besoin de ce temps de sommeil.
Oui.
Et donc avec Pierre, on a en général une heure entre quand il rentre et après avoir dîné.
Oui.
Et puis ensuite, c'est vrai que moi je me couche et lui fait encore quelques petites activités
dans la maison. Et vous couchez à quelle heure pour être sûr?
10h30.
D'accord. Bon, quand même, vous profitez quand même de d'un peu de la soirée. Gérer une famille nombreuse. Est-ce que gérer une famille nombreuse, cela veut aussi dire prendre soin d'une famille en étant encore soi-même enceinte ?
Oui, je pense que c'est quand même très important. En fait, je pense que le grand challenge de la famille nombreuse, c'est d'arriver à gérer de front une grossesse, toute une fratrie qui est déjà là, un couple qui doit survivre. Et ça, c'est vraiment un vrai challenge pour une famille nombreuse.
Un challenge totalement réussi pour vous, Marielle. On l'a compris longtemps dans le calme de votre témoignage aujourd'hui. C'est pour cela que je vous remercie d'avoir témoigné au 39-21 cet après-midi. Et puis, bien évidemment, comme pour toutes les autres, on embrasse votre nombreuse famille. Merci aussi à Athéna, merci à Perrine, merci à Satya de nous avoir fait partager leur histoire. Merci à Claudine. C'est la fin de cette émission, donc avoir une famille nombreuse, eh bien, on l'a vu, demande une sacrée organisation, beaucoup d'attention et puis surtout de la discipline pour que chacun puisse grandir à son rythme. C'est un projet de vie et des beaux souvenirs, bien évidemment. On dit des enfants qui viennent de familles nombreuses qu'ils sont souvent dans le partage, l'altruisme et l'écoute. Et on a pu le vérifier avec Perrine tout à l'heure et puis avec ce dernier témoignage de Marielle. On sent que voilà, il y a des valeurs qui se développent au contact des frères et sœurs. Et puis, quant aux parents, il semble important de ne pas s'oublier. Et on l'a vu aussi à travers ces témoignages de parents. Écoutez, la vie semble belle pour ces familles nombreuses. Est-ce que c'est ce que l'on peut en tirer comme conclusion ? On peut continuer à en parler, Justine.
Bien sûr, vous pouvez continuer à en parler, à vous confier sur ce sujet des familles nombreuses sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter ou alors sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Et puis chaque jour sur mon Instagram officiel Olivier Delacroix, je vous pose des petites questions, je vous mets au courant des sujets qui viennent. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à y laisser vos réflexions. Et puis on vous répond, on regarde tout, on lit tout. Demain, nous parlerons ensemble de l'entrepreneuriat, à quoi ressemble l'aventure quand on est son propre patron. Des débuts à la réussite ou à l'échec parfois, comment le vivez-vous ? Si vous êtes récemment lancé dans l'entrepreneuriat, si vous avez connu beaucoup d'échecs en tant qu'entrepreneur, mais que vous vous êtes toujours accroché, si vous avez été obligé de redevenir salarié après avoir essayé de monter votre propre entreprise, eh bien essayez de nous appeler dès maintenant au 39-21. Nous serons là à partir de 15h demain pour vous écouter. Ma chère Justine, j'ai été ravi de passer cette heure avec
vous. Également Olivier.
Et puis on se retrouve demain à partir de 15h.